Говорит Москва.
Bonjour à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vous avais prévu pour le mois de mars une surprise, je vous l'avais même annoncé et paf, c'est raté, j'aurais dû me taire. Alors, c'est pas tout à fait raté parce que vous allez quand même avoir quelque chose de qualité, je vous le garantis. Puisque nous recevons Xavier Moreau, alors pourquoi notre fusil a changé d'épaule? D'habitude c'est... moi qui change mon fusil d'épaule, là c'est le fusil a changé d'épaule tout seul. C'est-à-dire que ce qui se passe en fait, c'est que nous avons été rattrapés par deux actualités. D'abord, à l'heure où j'enregistre, malheureusement, le bilan de l'attentat qui a eu lieu à Moscou vendredi soir ne cesse de s'alourdir. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, eh bien, c'est que Xavier Moreau a lui aussi une actualité puisqu'il publie l'Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Je lui ai demandé de venir nous en parler. Il a eu la gentillesse de le faire. Donc, je lui donne la priorité et ensemble, nous allons un petit peu éclairer l'actualité russe. Je vous retrouve tout de suite. Eh bien, alors, voilà, ce soir, je reçois un invité exceptionnel puisque je pensais pas qu'il, je pensais l'inviter une fois par an, je pensais qu'il serait, voilà, il est venu au mois de septembre dernier. Et puis, il se trouve qu'il vient de sortir un livre qu'il a eu la gentillesse de m'offrir. Donc, du coup, que j'ai lu. Et, pour en parler, eh bien, je lui ai demandé de venir. Bonsoir, Xavier Moreau.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Bien, très bien. Merci, et vous?
Bon, tranquille, écoutez, tranquille. Si on peut dire que c'est tranquille parce que le week-end a été douloureux. Vous savez, comme moi, qu'aujourd'hui à Moscou, c'est deuil national.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Et,
dimanche des rameaux, deuil
voilà,
national.
Le dimanche des rameaux pour les catholiques, hein, il faut le préciser. Et c'est vrai que ce matin, le rameau que nous avons tenu dans la main avait quand même, disons, un goût de. Un peu de peine, on va dire.
Tout à fait, tout à fait.
Mais aussi une occasion de prière pour évidemment les gens qui ont été atrocement touchés par cet attentat. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, on va parler de votre livre et puis bien sûr on reviendra un tout petit peu sur cette question d'actualité. Alors sur votre livre que j'ai lu avec attention et qui est, ma foi, bien intéressant. Il y a quand même des choses qui m'ont... Alors, il y a des choses avec lesquelles je suis en désaccord, on en reparlera. Et puis, il y a des choses qui m'ont étonné. La première chose qui m'a étonné, c'est le titre. L'Ukraine, pourquoi la Russie a gagné? La Russie n'a pas encore gagné, puisque le front est toujours actif, l'opération spéciale est toujours en cours en Russie. Et malheureusement, j'ai envie de dire, parce que si la Russie avait gagné, au moins ça signifierait la fin des hostilités. Or, malheureusement, beaucoup de gens des deux côtés tombent au front actuellement, alors que, voilà, si le camp occidental n'attisait pas le feu de la guerre et le feu du conflit et le feu de la discorde, aujourd'hui, il y aurait plus de... Voilà, les gens s'arrêteraient de mourir dans ce conflit qui est absolument effroyable. Je crois qu'en année, on parle de plusieurs centaines de milliers de morts côté ukrainien, plusieurs dizaines de milliers côté russe. Enfin, c'est quelque chose d'une boucherie épouvantable. Donc, la Russie a-t-elle vraiment gagné, Xavier Moreau?
Oui, en fait, je suis, comme je le dis d'ailleurs en introduction, en fait, je me suis fondé sur le consensus qui existe aujourd'hui chez les historiens de la Deuxième Guerre mondiale pour dire qu'Hitler avait perdu la guerre en septembre 1939 quand il a envahi la Pologne parce qu'il n'avait ni les ressources humaines ni les ressources énergétique notamment et les ressources diplomatiques qu'il espérait et qui lui permettraient de l'emporter à terme puisqu'il devait se trouver face à, aux États-Unis et à l'URSS. Donc en fait, c'était ce calcul en fait des potentiels qui pouvait être fait par quelques qui aurait pu être fait en 1939. Je pense d'ailleurs il y en a un qui l'a fait, c'est le général de Gaulle, puisque il y a un témoignage d'un député radical dont j'ai oublié le nom qui dit que il croise de Gaulle à Bordeaux en juin et de Gaulle a une discussion où il dit calmement les Allemands ont perdu la guerre. Et en fait, effectivement, il a raison, les Allemands ont perdu la guerre parce que Hitler se trompe. Hitler se trompe sur le fait qu'il s'imagine que l'Angleterre pourra devenir son allié. Il se trompe sur le fait qu'il va pouvoir s'emparer des pétroles du Caucase. Il se trompe sur le fait que son Barbarossa peut ne durer qu'entre 3 et 6 mois et que donc les ouvriers allemands pourront retourner sur leur chaîne de montage, etc., etc. Donc cette analyse qui aurait pu être faite de manière, évidemment, c'est facile à dire maintenant, mais j'ai essayé de faire cette analyse qui aurait pu être faite dès 1939, essayer de le faire sur le conflit ukrainien le 24 février 2024 et 2022, pardon. Et d'après la connaissance que j'ai des complexes militaro-industriels russes, du complexe militaro-industriel français, des données économiques, de la puissance russe, humaine russe, du fait qu'on n'est plus au 19e siècle, ni même dans les années 60, et qu'aucun pays occidental n'enverra son armée, qu'elle n'a pas d'ailleurs, et acceptera d'avoir des dizaines de milliers de morts. Hein, je rappelle, je prends la comparaison avec la guerre de Crimée. En 1853, la France a envoyé 315 000 hommes, elle a eu 95 000 morts. C'est des choses impossibles aujourd'hui. Et en fait, si on voulait vraiment apporter une aide significative à l'Ukraine, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc tout ce calcul-là, je l'ai fait évidemment en février 2022. Et d'ailleurs, je voulais publier mon livre en août 2022, mais je n'ai pas pu puisque j'étais recruté par Russia Today en français, RT en français. À l'époque, c'était encore RT France. Et pour une émission de géopolitique, donc une par semaine au moins. Donc c'est beaucoup de travail et ça a décalé. Et comme je dis, c'est dans mon introduction, c'est pas plus mal parce que finalement tout ce que je disais aujourd'hui, bah, vous le trouvez dans la presse anglo-saxonne essentiellement, qui est reprise de temps en temps par la presse française. C'est-à-dire la supériorité de l'économie russe, la supériorité de son complexe militaro-industriel, la capacité de son armée, de ses cadres, aujourd'hui, eh bien, c'est dans le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, le New York Times, j'ai déjà dit Bloomberg, et y compris même dans la presse anglaise russophobe, comme dans le Télégraphe ou The Economist. Voilà.
Oui, enfin, le
Et
Washington Post ou le New York Times, c'est pas spécialement russophile en plus, hein.
en plus, ah oui, non, tout à fait,
Ouais,
c'est ça,
c'est
c'est-à-dire
ça.
qu'en plus, on ne peut pas les accuser.
Faut pas les
Et donc,
accuser d'être pro-Poutine quand même.
exactement. Donc ça, c'était un peu. Alors hier, en plus, j'ai même vu par hasard, on m'a envoyé le lien. C'était sur LCI qui constate que l'armée russe finalement s'adapte très vite à la guerre et bien avec beaucoup de souplesse. Donc ce qui d'ailleurs est le cas depuis le début, contrairement à ce qu'on a raconté. La Russie attaque l'Ukraine avec un contingent 3 fois inférieur.
Alors, je voulais y revenir justement à ce qu'on a raconté, parce que moi, au début, on m'avait dit, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui écoute assidûment les chaînes françaises. En fait, plus moi maintenant, parce que je suis à Moscou, c'est un peu plus compliqué, puisque vous savez qu'on vit dans une dictature terrible où
C'est vrai.
on a le droit d'écouter que Vladimir Poutine en boucle. Mais avant, moi, j'écoutais je regardais les chaînes françaises, et on m'avait expliqué que bon, l'économie russe allait être à genoux. Et on m'a expliqué les puces des machines à laver, hein, j'y reviens pas, où ils sont obligés de démonter les lave-vaisselles pour pouvoir récupérer les puces pour mettre sur leur missile. Et je crois que beaucoup de gens y ont cru à ça, parce qu'il y a quand même des gens, il y a quand même des militaires, des officiers supérieurs, voire des généraux qui ont engagé leur galon et leurs étoiles sur ce genre de choses. Comment vous expliquez ça?
Alors d'abord, il faut voir une chose, c'est que les généraux et les colonels qu'on entend, ce sont essentiellement des retraités, donc c'est des gens qui ne sont plus dans l'institution. Et je crois que l'institution française, finalement, je pense notamment au centre de documentation et d'enseignement du commandement de l'armée de terre, le SDEC, CDEC, lui a quand même mieux pensé la guerre que ce qu'on a pu voir défiler sur les plateaux de télé, le général Yakovlev. le colonel Goya, Trinquant, etc., pour ne citer que. Et d'ailleurs, il y a eu notamment la retraite de Kherson, hein, qui a eu lieu donc à l'automne, en octobre 2000, 2022. Finalement, on a appris un an après, dans Le Monde, qui a cité donc le CDEC, qui a cité que, bah oui, en fait, finalement, les Russes ont fait comme les Allemands en 1917, l'opération Alberich, hein, où au début de l'année 1917, les Allemands se sont retirés d'une partie du territoire qu'ils contrôlaient pour raccourcir le front et avoir des positions plus faciles à défendre à la veille des grandes offensives alliées. Donc, je pense que, et en plus, il y a eu les fuites récemment dans Marianne, où là, on est sur quelques rapports qui expliquent que l'armée russe est compétente, que les soldats russes sont relevés régulièrement, qu'il y a un amalgame entre les nouvelles recrues et les jeunes recrues, et ça m'a été confirmé par des gens sur le terrain. Donc, exactement le contraire de ce qu'on nous décrit sur les plateaux de télé. Donc, voilà, il y a une chose. Le problème, c'est que c'est difficile de voir ce que croient les élites qui nous gouvernent. C'est ça qui est compliqué. Jusqu'à quel point est-ce qu'ils ces rapports leur remontent? Est-ce qu'ils y croient? Est-ce qu'il n'y a pas cette perversion intellectuelle qui fait que, de moi, ce que j'appelle la pensée magique, c'est-à-dire que même si on sait évidemment que l'armée ukrainienne a perdu la guerre dès le 24 février 2022, c'est une réalité tellement inacceptable qu'on bascule dans la dissonance cognitive. Donc, et ça, je ne peux pas dire au niveau des élites, notamment nord-américaines, je ne peux pas dire. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les décisions qui ont été prises étaient fausses dans beaucoup de domaines. Et je pense que la principale erreur, c'est le domaine économique. Parce que j'ai du mal à croire qu'au Pentagone, on ait pu croire un instant que l'Ukraine pouvait l'emporter. Je pense que le pari qui a été fait, c'était que l'Ukraine pourrait tenir entre 3 et 6 mois. Et qu'à partir de là, l'économie russe s'effondrerait et que donc il y aurait un soulèvement, des manifestations en Russie, que Poutine perdrait le pouvoir, ce qui était le but, hein, de l'opération ukrainienne. Voilà, je pense que la mésestimation porte surtout sur le domaine économique, et cette idée a entraîné, eh bien, une comment dire, une erreur d'appréciation sur tout le reste. Et ce qui est dramatique, c'est que je pense qu'au mois de juin, juillet, août, il était clair que la Russie allait tenir économiquement. Et pourtant, on a continué à pousser Kiev à faire la guerre. Et ça, c'est extrêmement grave. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, qu'on soit pro-ukrainien ou qu'on soit pro-russe, la question n'est pas là. La question, c'est que l'Ukraine n'a jamais une chance de gagner. Et donc, ceux qui l'ont cru et qui l'ont dit sont soit bêtes, donc les gens qui le disent sont soit stupides. Ce qui n'est pas exclu, notamment ceux qui passent sur les plateaux de télé, soit sont des, pardonnez-moi l'expression, sont des salauds, parce qu'ils savaient que l'Ukraine n'avait aucune chance, mais ils ont utilisé l'Ukraine comme bélier pour essayer de faire tomber Vladimir Poutine. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très grave.
Alors, bon, si vous le permettez, j'ai une opinion là-dessus. C'est-à-dire que, bon, moi, je pense que des gens comme, y compris ceux qui ont l'air le plus stupide à la télévision aujourd'hui, bon, déjà, il y a une différence entre la France et les États-Unis. C'est-à-dire que, enfin, entre les pays européens et les Américains. Les Américains ont intérêt à la guerre et aux sanctions. Et ils en profitent. Et donc, quelque part, eux, ça les sert. Bon. Dans le cas des pays européens, ils n'ont plus de souveraineté. Donc, ils font ce que dit Washington. Bon, mais pour ce qui est des gens sur les plateaux, vous savez, moi j'ai fréquenté pas mal les organisations internationales et je voyais ce qu'ils se disaient en privé, ce qu'ils se disaient en public. Et c'est tout. On demande aux gens de tenir un discours et pour la carrière, pour le cachet, pour le fric, pour le confort, pour le confort matériel, ces gens-là sont prêts à raconter absolument n'importe quoi. Alors, de civil, enfin, c'est pas que ça me dérange pas, c'est toujours, mais quelqu'un qui, de la part de généraux, qui ont quand même leur honneur de soldat, quoi. Quelque part, c'est assez dégoûtant, quoi. Enfin, ça donne une idée du degré de décadence où on est arrivé, parce que voilà, quoi, un type comme le général Trinquant,
Il le sait qu'il raconte n'importe quoi. Je veux dire, c'est des gens qui ont quand même, ils ont étudié, enfin, ils sont pas généraux par hasard, même s'ils sont biberonnés à l'OTAN et tout ce qu'on veut, ils le savent qu'il raconte n'importe quoi. Je veux dire, et que cette guerre dès le départ n'était pas gagnable. Donc, à mon humble avis, je crois que c'est vraiment une volonté comment dire ça, c'est tout. On leur demande de tenir un discours, on les paye bien pour qu'ils tiennent ce discours, et ils le tiennent, c'est tout. Voilà, c'est juste le ventre qui parle, c'est plus la tête, quoi. Enfin, à mon avis. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Après.
Bah oui, bon, maintenant, par exemple, le général Trinquant, je souligne dans mon livre quand même, il croyait que Sotchi était en Crimée. Donc il y a quand même des lacunes, il y a quand même des grosses lacunes. Il y a quand même des grosses... Cela dit, je suis d'accord avec vous sur le fait que pour Washington, il y avait deux buts de guerre, faire tomber la Russie, et à commencer par Vladimir Poutine, et le deuxième, c'était la destruction de l'économie européenne en coupant le cordon ombilical énergétique.
C'est
Entre la
ça, voilà.
Russie essentiellement et l'Allemagne. Et ça, ce but de guerre a été atteint. Et il a été bien atteint. L'industrie allemande est blessée à mort. Elle est en train de s'expatrier vers les États-Unis, ce qui était le but.
Et ce
Donc
qui va faire des chômeurs allemands?
voilà. Donc là-dessus, on peut dire que c'est un succès. Alors, ce n'est pas un succès contre la Russie. Ça va être une défaite cinglante. Mais c'est un succès, incontestablement, d'avoir permis la destruction de l'économie européenne et du moteur économique européen qui est l'économie allemande. Donc, ça, là-dessus, effectivement, il y a de la rationalité. Et sur ce point-là, Washington a fait une bonne affaire, incontestablement.
Oui, mais de toute façon, c'est tout. Washington, dans toutes les guerres qui se sont déroulées en Europe, c'est Washington qui a toujours tiré son épingle du jeu, hein, dans tous les cas. Donc voilà. Alors évidemment, on va pas déflorer tout votre livre parce que sinon les gens vont pas l'acheter, ce serait dommage. Mais on va parler vous abordez beaucoup de sujets dans votre livre, et vous abordez un sujet en particulier qui moi m'a beaucoup intéressé, parce que c'est vrai que je connais pas bien, même si je connais un peu l'histoire soviétique, mais vous abordez, c'est-à-dire que si je vous ai bien lu, l'Ukraine, la langue ukrainienne, j'ai envie de dire l'ukrainitude, mais toute cette notion d'appartenance comme c'est ukrainienne, comme pays souverain indépendant, et tout ça, serait inexistante. En réalité, serait une création totalement artificielle, émanant des soviétiques. Alors, moi, j'aimerais que vous en disiez un peu plus, parce que bon, moi, bon, c'est quand même contesté. Il y a des gens qui. Alors, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais je sais que Georges Niva a fait une anthologie de la littérature et de la poésie ukrainienne. Voilà, il y a donc il devait quand même bien exister des choses avant. L'Ukraine n'est pas née en 1917, ou bien?
Non, pas du tout. Mais enfin, si, l'Ukraine est née en 1921, plus
Oui,
exactement, en
enfin,
tant qu'État.
1921, oui.
En tant qu'État, la question n'est pas là. La question, il peut y avoir des dialectes locaux. Enfin, moi, personnellement, mon père est du Limousin. Quand j'étais petit, il me grondait en patois du Limougeot. C'était tout à fait normal. On peut dire que l'Ukraine et plutôt les Ukrainiens. Puisque l'Ukraine déjà définie, le terme de l'Ukraine, c'est le kraï, c'est l'extrémité, donc c'est la périphérie.
Oui,
Si
c'est
on
le
voulait
bord,
traduire
exactement.
exactement, voilà, si on voulait traduire exactement le terme Ukraine, en fait, on dirait la périphérie et les Ukrainiens, on les appellerait les périphériens. Dans la réalité, c'est ça. Donc, en tant que nation, ça n'existe pas. Ça désigne un territoire. Et l'Ukraine, telle qu'elle a été construite par les bolcheviks, répond à on va dire, une tendance du 19e siècle qui est celui du principe des nationalités, où n'importe quelle peuplade peut prétendre à devenir une nation. Autour d'une langue et d'une histoire plus ou moins mythifiée, je pense que là, il y a l'héritage à la fois de la Révolution française et également des discours à la nation allemande de Fichte, donc au moment des invasions napoléoniennes, où il explique qu'effectivement, l'Allemagne moderne telle qu'elle va apparaître à Versailles en 1871, autour de la Prusse, eh bien, a une histoire même si c'est pas celle d'une nation, en fait, c'est autour d'une langue et d'une race, en gros. Et donc, à partir de ce moment-là, au XIXe siècle, vous avez tout un courant qui fait que n'importe qui veut avoir, veut avoir son, veut être une nation, n'importe quel peuple, en se fondant sur la langue et la race. Et donc, c'est ce qui. Alors, ce qui peut avoir une certaine existence historique côté allemand, d'ailleurs, la nation allemande, même aujourd'hui, l'Allemagne moderne, elle est, mine de rien, elle est pérenne. En revanche, il y a toute une partie qui est fantasmée. Et à côté de ça, vous avez là un engouement pour le Moyen-Âge. C'est l'époque de Walter Scott, c'est l'époque de où tout le monde veut, on essaie de retrouver un Moyen Âge mythifié, des peuples avec des traditions historiques mythifiées. Et donc finalement, le projet ukrainien chez les intellectuels de la région, ça c'est plutôt dans mon bouquin de 2015 en fait hein, que je l'explique. Eh bien, tout
L'Ukraine,
ce
pourquoi la
calcul.
France s'est trompée?
Voilà, c'est ça. Et en fait, donc, vous avez bon, la confrérie Cyrille Méthode, vous avez effectivement le grand auteur ukrainien, Tarashevchenko, donc, qui écrit un grand poème qui s'appelle Le Kobzar. Voilà, mais
C'est
bon, là, on parle.
c'est un peu l'équivalent de ce que serait Dante pour l'Italie,
Voilà, c'est à peu près
ou
ça. Sauf
Roustavieli pour la
que la
Géorgie.
majorité de son œuvre et son journal, il le tient en russe. Oui. Et
Oui.
donc, vous avez également d'autres auteurs comme Ivan Frankovsk, je ne sais pas comment on l'appelle.
Ivano-Frankivsk maintenant,
Oui,
à mon
non.
goût.
Alors, ce qui est délirant, c'est qu'en fait, avant de s'appeler Ivano-Frankovsk, c'était le nom d'une ville, était un nom polonais. Et donc, les Ukrainiens ont dépolonisé le nom et ont nommé Ivano-Frankovsk, dont d'ailleurs les fils étaient des bolcheviks ukrainiens tout à fait convaincus. Et là aussi, je reviens sur la partie où on essaie de faire croire que les bolcheviks ont persécuté les Ukrainiens, c'est totalement faux. Ils les ont au contraire, ils ont créé l'entité ukrainienne. Donc, il y a toute cette espèce de mythe, mais qui imprègne profondément les intellectuels, une partie des intellectuels au 19e siècle et au début du 20e, dont un certain Staline. Parce que Staline est celui qui est nommé par Lénine pour s'occuper du principe des nationalités. Et on a tous les textes qui ont été regroupés. Donc le premier date de 2013, et on s'aperçoit qu'on a un Staline qui est fervent soutien de.
1913, vous voulez dire?
Oui, 1913, oui, pardon, qui est un fervent soutien de toutes les nationalités à l'intérieur de l'Empire russe, donc qui est devenu l'URSS, et que d'ailleurs il accuse le chauvinisme grand russe d'avoir empêché l'épanouissement de ces nationalités. Et donc
Alors.
c'est lui qui crée de toutes pièces l'Ukraine, en y ajoutant donc notamment le Donbass, en y ajoutant des territoires qui n'ont jamais fait même partie de ce que les intellectuels du XIXe siècle imaginaient devait être l'Ukraine en fait.
Donc,
Donc c'est
si je vous suis, donc déjà au 19e siècle, il y avait quand même une volonté de souveraineté ukrainienne.
Non, il y avait chez une partie des intellectuels, il y avait le rêve de créer une Ukraine, mais c'était totalement théorique et ça n'avait aucune réalité populaire. Aucune. C'est quelque chose qui a évolué uniquement dans certains milieux intellectuels. Et aussi, il faut voir que le sentiment ukrainien a été développé au sein de ce qu'on des régions de Galicie qui était de la région de Galicie et l'Odomérie, c'est-à-dire l'ouest de l'Ukraine, hein, qui est le cœur du bandérisme actuel, par les Austro-Hongrois. Parce que les Austro-Hongrois avaient peur que ces Galiciens, finalement, leur volonté de rejoindre la Russie. Et d'ailleurs, quand l'armée russe rentre en Galicie, elle est accueillie avec des fleurs au début de la Première Guerre mondiale. Mais cela dit, à cette période-là, donc les Autrichiens développent on va dire une ukrainité, mais pareil, complètement artificielle. Ils essayent de donner une grammaire à la langue. Ils encouragent les poètes ou les écrivains à écrire en ukrainien, mais ça ne rencontre pas d'écho. Notamment, il y a des journaux en ukrainien, mais tout le monde s'en moque. Ça n'intéresse personne. Et finalement, ceux qui essayent d'écrire ou de parler, ils parlent russe. Donc voilà, donc toute cette manipulation un peu d'une population à l'ouest de l'Ukraine, qui est sans doute la population en Europe qui a été le plus maltraitée, notamment par les Polonais, c'est ce que j'explique dans mon livre, eh bien, toute cette rancœur accumulée, les nationalistes ukrainiens finissent par la tourner contre les Russes. Alors que les Russes mettent les Russes n'ont plus de contact avec les Galiciens depuis les invasions mongoles et polonaises, polono-mongoles. Donc, c'est-à-dire au XIVe siècle. Oh, je dis une bêtise, XIIIe siècle. XIIIe siècle. Donc, il n'y a plus de contact et les Russes ne sont pour rien des malheurs de la Galicie. Ceux qui sont responsables essentiellement, ce sont les Polonais. Les Autrichiens les ont plutôt bien traités. Et c'est finalement Staline qui intègre la Galicie à l'intérieur de l'Ukraine. C'est Staline qui réalise le rêve des militants galiciens, dont Bandera, Chouchkevitch, pardon, et Melnik. Donc ça vient des bolcheviks parce qu'ils croient au principe des nationalités. Mais pour Staline, ce principe des nationalités ne doit pas se traduire par un nationalisme qui est bourgeois, qui est une tendance bourgeoise qui empêche l'union des prolétariats. Et c'est aussi pour ça qu'une partie des nationaux bolcheviks ukrainiens qui dominent totalement l'appareil communiste en Ukraine jusqu'au début des années 30, eh bien, elles finissent par être purgées. Parce qu'ils vont trop loin. Staline encourage l'utilisation, même rend obligatoire l'utilisation de la langue ukrainienne. L'ukrainisation forcée, la première, c'est Staline. Hein. C'est Staline jusqu'en 1932 à peu près. Mais au bout d'un moment, ça va trop loin. Donc, ils purgent les éléments les plus radicaux, ceux que j'appelle les nationaux bolcheviques ukrainiens, qui ont encore leur plaque, qui sont encore célébrés dans l'Ukraine actuelle. Hein. Chomsky. L'autre, j'ai oublié son nom. Enfin, tout ça est dans mon livre. Comment est-ce qu'il s'appelle?
Ah,
Krylovoy,
Krylovoy, oui, c'est
Krylovy.
ça.
Voilà,
Je
Krylovy. Donc,
cherchais.
voilà, donc c'est ce qui se passe. Donc on part d'une idée très 19e, c'est-à-dire du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et du droit de n'importe quelle peuplade à disposer d'elle-même. Avec à côté de ça, tout le romantisme du 19e siècle, vous implantez ça dans une population galicienne qui a toujours été vraiment maltraité pendant des siècles, eh bien, vous obtenez un cocktail qui va donner le bandérisme, hein, le nationalisme ukrainien, qui n'a aucun fondement historique et qui est censé se fonder sur une langue, mais qui n'est même pas parlé, mais qui n'est pas parlé, qui n'est pas la même partout. D'ailleurs, puisque en fonction de la proximité, soit de la frontière polonaise ou hongroise ou roumaine ou russe. Eh bien, la langue change. Et d'ailleurs, ce sont les bolcheviks qui tentent de donner une véritable grammaire dans les années 20. Sans l'Union soviétique, sans les bolcheviks, il n'y aurait pas de langue ukrainienne aujourd'hui. Il faut quand même bien
Oui,
s'en rendre compte.
après, il faut quand même bien comprendre que ça, malheureusement, enfin, malheureusement ou pas d'ailleurs, je sais pas, mais en tout cas, c'est commun à beaucoup de nations. Je veux dire, la question linguistique, je veux dire, si la France parle français aujourd'hui, ça a été, dans certaines régions de France, ça a été imposé à marche forcée. Il y a eu,
Après la Révolution,
certes.
la France a vécu 1300 ans sans aucune oppression linguistique. Et par exemple, l'édit de Villers-Cotterêts, c'est pour se débarrasser du latin en tant que langue administrative. Il y a une langue principale, mais il n'y a jamais eu de persécution des langues locales, des dialectes. C'est la Révolution qui le fait, parce que pour la Révolution, le français est un moyen d'imposer les soi-disant valeurs révolutionnaires à
La
toute la
propagande.
population. Voilà, la propagande, c'est un moyen de faire passer la propagande. Donc, je pense que c'est absolument injustifié, notamment les persécutions qui étaient faites contre les Bretons, etc. C'est tout à fait
Oui,
inadmissible.
le interdit
Donc,
de cracher par terre par les Bretons dans les écoles ou alors
voilà,
les...
exactement.
Ouais.
Mais en URSS, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'au contraire, on développe des langues locales, y compris qui existent à peine. C'est le cas de l'ukrainien. Et d'ailleurs, ce que les savants soviétiques font avec l'ukrainien, ils le font avec toutes les langues. Ils donnent un alphabet aux Tadjiks, aux Ouzbeks, aux Kazakhs, et ils créent la Biélorussie, ils créent la langue biélorusse. Donc c'est au nom du principe des nationalités et c'est pas du tout quelque chose comment dirais-je, d'artificiel. Staline en est convaincu. Je cite plusieurs de ses textes. Et même quand effectivement il y a une montée des nationalismes à cause de cette politique, quoi qu'il arrive, l'ennemi principal de Staline, du point de vue on va dire culturel, c'est le chauvinisme grand russe. Je cite.
Oui, bien sûr. De toute façon, aujourd'hui, on est dans un... Alors, pardon d'abonder dans votre sens, mais On est dans un système, ça ne sera pas toujours le cas, je vous promets. Mais on est dans un système, effectivement, où il y a un très gros malentendu, notamment chez les analystes occidentaux. Ils croient que, c'est-à-dire aujourd'hui, ils rendent la Russie coupable de tous les méfaits soviétiques. D'abord, en réalité, c'est plus compliqué. Et puis, ça, vous le dites pas dans votre livre, mais parce qu'on peut pas tout dire. Mais le Politburo sous Brejnev, qui était ukrainien, le Politburo sous Brejnev est composé en grande partie d'Ukrainiens. Je veux dire, les
Brejnev
Tchernigov.
lui-même.
Et
Brejnev
Brejnev lui-même,
lui-même.
oui, c'est ce que je dis, oui, tout à fait,
Ouais,
oui,
tout à fait.
qui était de Dniepropetrovsk. Qui a eu la nationalité russe, je crois, à 30 ans ou quelque chose comme ça, hein. Donc c'est
Tout à
y a...
fait. Il y a eu plus de secrétaires généraux du Parti communiste ukrainien que russes. Vous avez donc
Tchernenko,
Tchernenko,
Brejnev.
Brejnev. Alors, Khrouchtchev, contrairement à ce qu'on a dit, il était à la frontière ukrainienne. Mais de toute manière, la frontière est complètement
La
théorique. Et
frontière,
il
elle
était
était
ukrainien.
nue, je veux dire, il y a des
Voilà,
gens.
il était, il, voilà, il était, et il était ukraino, il était ukrainophile. D'ailleurs, sa seconde épouse était ukrainienne. C'est lui qui leur a donné la Crimée. Donc, il
Ah
n'y a
oui, mais
pas
là,
eu
si vous mettez les
plus.
épouses, alors là, on est aussi Gorbatchev dans ce cas-là.
Ouais, non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de persécution de la population ukrainienne en tant qu'ukrainienne. Et au contraire, et ça a d'ailleurs été un problème que j'avais évoqué dans mon premier ouvrage, c'est que les élites, les gens les plus brillants du Parti communiste d'Ukraine, eh ben, ils montaient à Moscou. Et donc, ce qui fait que à Kiev, ceux qui sont restés ont toujours été un peu c'était pas les meilleurs. Et ça s'est vu d'ailleurs avec des gens comme Kouchma, Kravchouk, Porochenko aussi, hein, qui est un produit du Parti communiste d'Ukraine. Donc les Ukrainiens avaient toute leur place dans l'appareil soviétique et ils en ont bien profité. Faudrait faire. J'avais même lu, mais j'ai pas vu la démonstration m'avait pas m'avait ni convaincu ni d'un sens ni d'un autre, mais qu'en fait ils étaient dominants dans l'appareil communiste central ou parti communiste de l'Union soviétique. Donc les Ukrainiens n'ont jamais eu de problème avec l'Union soviétique. Et si vous voulez, par exemple, l'exemple que je donne, Taras Shevchenko, donc qui est le plus grand des écrivains ukrainiens, l'université à Kiev porte son nom, Taras Shevchenko. Qui l'a baptisé Taras Shevchenko? Les communistes.
C'est Staline, oui,
Le
il me
vrai
semble.
nom, c'est l'université Saint-Vladimir. Jusqu'en 1917, c'est l'université Saint-Vladimir. Et donc, ce sont les communistes qui ont rebaptisé l'université Saint-Vladimir en Taras Shevchenko. C'est pas en 1992 que ça s'est passé. Donc, il y a absolument aucune persécution des Ukrainiens en tant que tels et de la langue ukrainienne. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que la période d'ukrainisation forcée, donc qui dure jusqu'en les années 30, elle finit par s'arrêter. Pour les raisons, parce que Staline voit les dérives nationalistes et surtout, lui aussi, il va avoir un État centralisé qui fonctionne, donc la langue russe est un vecteur nécessaire. Mais l'ukrainien restera la langue officielle. Et à partir de ce moment-là, le problème, c'est quand vous arrêtez d'obliger les gens à parler ukrainien, ils se remettent à parler russe. C'est ça aussi, ça explique aussi pourquoi les accords de Minsk n'ont jamais été appliqués, parce que les élites qui viennent et anglo-saxonnes le savent pertinemment, c'est-à-dire que entre une langue qui est un patois un peu amélioré, avec très peu de littérature, qui n'est absolument pas une langue scientifique, comme je le démontre dans mon livre, notamment citant le passage de Kravchenko, donc le dissident
Oui, alors
soviétique.
ça, vous citez effectivement le passage de Kravchenko, hein, qui dit que donc Viktor Kravchenko, donc qui était un dissident de l'après-guerre, qui a vécu en France, je crois, hein, d'ailleurs.
Il est venu en France. Alors, il a publié son livre d'abord en anglais, I Chose Freedom, j'ai choisi la liberté, et donc il a fait ses études à Kharkov. Et il explique que même pour lui, qui parlait l'ukrainien, c'était le fait d'imposer l'ukrainien dans l'université était une véritable catastrophe, parce que la langue n'avait pas le niveau. Tout simplement pas le niveau, c'était pas une langue scientifique. Et donc, en fait, c'était contre-productif. C'est aussi par réalisme que Staline a arrêté cette ukrainisation forcée. Et à partir du moment où, encore une fois, les populations ont eu le choix de parler la langue qu'ils voulaient, ils parlent russe. Par exemple, moi, ce qui m'étonnait, c'était, et pourtant, c'était publié par Olivier Berruyer, je crois, sur les cartes linguistiques de l'Ukraine. Donc, il avait dû récupérer les cartes officielles. Et donc, on voyait Kiev faisant ville parlant ukrainien. Mais personne, jusqu'en avril 2014 en tout cas, moi j'étais, je suis allé à ce moment-là, c'est la dernière fois que je suis allé à Kiev, tout le monde, même sur le Maïdan, tout le monde parlait russe. Et les Ukrainiens même plaisantaient en disant, merde, les seuls qui parlent ukrainien, c'est les péquenauds et les hommes politiques, les femmes politiques. Donc, en fait, tout ça est artificiel. Et c'est ça qui fait peur, en fait, aux élites qui viennent, à la classe dirigeante ukrainienne, c'est qu'ils savent très bien que si on arrête de menacer les gens, de les persécuter sur la langue, pour les obliger à parler ukrainien, ils vont tous se remettre à parler russe, ça va prendre 3 semaines. Et ça, c'est clair.
Ben, de toute façon,
Et.
oui, chasser le naturel, je veux dire, effectivement,
Mais voilà.
les gens, voilà, de fait, c'est le russe et l'Ukraine, en 30 ans d'indépendance complète, n'a jamais réussi à véritablement s'ukrainiser. C'est-à-dire que, voilà, les gens, il a fallu. Cela étant dit, bon, moi, la notion de Kravchenko qui dit que la langue n'a pas le niveau, bon, c'est quand même
C'est ce que dit
difficile.
Solzhenitsyn aussi d'ailleurs.
Ah oui, je savais pas que.
Ça a été repris par Solzhenitsyn et il faut voir d'ailleurs ce qui est quand même assez étonnant. On prend le cas de Zelensky. Zelensky, il est
Il est
rendu
russophone.
populaire, il est russophone. Sa mère l'appelait pas Volodymyr ni sa femme, elle l'appelle Vladimir.
Mais toujours, mais
Et
quand vous avez jamais regardé les vieilles émissions de télé avec Zelensky?
mais c'est ça, c'est-à-dire que l'émission qui l'a rendu célèbre, Sluga Naroda, le service du peuple, donc le
Ouais.
rôle d'un président ukrainien, c'est en russe.
Bien
Et
sûr.
avec les quotas qui sont mis maintenant d'Ukrainiens, je pense que cette émission qui l'a rendu célèbre ne pourra même plus passer sur la télé ukrainienne.
Ouais. Non, non, bien
Donc
sûr. Et puis.
tout ça est un montage, c'est la mise au service d'une oligarchie, d'une plutocratie, d'une langue artificielle. Pour asseoir le pouvoir. Et c'est pour asseoir son pouvoir. Et c'est terrible pour les Ukrainiens parce que ils ont la chance immense, comme nous les Français, comme les Anglais, les Allemands, d'avoir une langue riche, littéraire, scientifique. Et on les en prive pour leur apprendre un dialecte qui n'est même pas stabilisé d'ailleurs. Hein, quand on voit parler quelques linguistes, c'est très très compliqué. C'est très
Oui, alors
compliqué.
bon, le truc, c'est que les langues se stabilisent aussi, alors parfois par la force, hein, parce que voilà, parce qu'il y a un envahisseur qui décide que ben maintenant vous n'allez plus parler le français, vous allez parler l'allemand, ou parce que le facteur économique, il y a le vecteur économique, et puis il y a des langues qui naissent ex nihilo, par exemple comme l'hébreu moderne en Israël,
Tout à fait.
et là il se crée une terminologie, y compris une terminologie scientifique ou pas. Parfois, dans certaines langues, on reprend la terminologie d'une langue
Bah, vous prenez
existante.
l'exemple du Maroc, je crois que c'est à 5 ans, le Maroc a dit, bon, ok, finalement, la langue scientifique, ce sera le français.
Voilà, mais après il y a des choix, bien sûr, mais je veux dire, toutes les langues, moi je suis assez réservé sur le fait qu'une langue ait le niveau ou pas le niveau. Non, après la langue, un des facteurs qui fait qu'une langue s'impose, c'est le facteur politique. Et bon, malheureusement, quand il prend le pas sur tout le reste, c'est pas souhaitable, parce que ça génère une forme de violence, et en général ça
Mais
tient
par
pas.
exemple, vous preniez l'exemple de l'hébreu moderne, il n'a pas été imposé par la force, par la contrainte, à coup d'amende ou de perte d'emploi à la population israélienne. Il y avait une volonté commune. Ce qui s'est passé en Ukraine, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a imposé à des gens d'arrêter de parler la langue de leurs ancêtres, pour qu'ils parlent un dialecte qui ne donnait accès à rien. C'est ça qui est tout à fait inadmissible. C'est comme si, par exemple, je vous parlais du dialecte du Limougeot. C'est comme si je disais, j'arrive au pouvoir à Paris et je dis, bon, bah, maintenant, la langue, ça va être le Limougeot. Oui, il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de terme scientifique, mais ce n'est pas grave, parce que Limousin, Uber Alles, voilà. Donc, c'est pas. Non, c'est pas. C'est normal que les gens n'en veulent pas. Si, à la limite, les Ukrainiens étaient d'accord avec ça, pourquoi pas? Mais ils n'en voulaient pas. Et d'ailleurs, ils ont toujours élu. Depuis l'indépendance, sauf l'arrivée de Kravtchouk, ils ont toujours élu des présidents qui se faisaient passer pour pro-russes. Kouchma s'est fait élire par la région russe de l'Ukraine. Et pour finir par faire exactement le contraire de ce qu'il avait promis, ça a été pareil pour Porochenko, ça a été pareil pour Yanukovych, ça a été pareil
Pour
comment il s'appelle?
Zelensky.
Pour Zelensky, donc parce que les gens n'en voulaient pas. La question, c'est la solution, ça aurait été de effectivement de faire de laisser les gens choisir. Mais évidemment, si les gens choisissent, bah, ils vont aller vers la seule vraie langue en Ukraine, c'est le russe.
Il n'empêche que en 1991, quand il s'est agi de choisir l'appartenance, je pense notamment à la Crimée, l'appartenance à la Russie ou l'appartenance à l'Ukraine, ils ont choisi l'appartenance à l'Ukraine.
Non, ils ont choisi de quitter l'URSS, comme les Russes d'ailleurs. C'est
Oui, on est
ça,
d'accord.
c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, après le putsch d'août 1991, plus personne ne voulait de l'URSS. C'était irréformable, c'était mort. Et le premier qui n'en voulait pas, c'était Yeltsin. Et Yeltsin, il était prêt à tout pour déjà, pour lui, faire disparaître l'URSS. C'était un moyen de se débarrasser de Gorbatchev. C'est aussi pour ça qu'il l'a fait. Et donc, en fait, plus personne ne croyait à cette structure. Et surtout pour les Criméens, c'était un bon moyen pour eux de rejoindre la Russie, puisqu'ils avaient de quitter leur de
Oui.
quitter le attachement artificiel qui avait été décidé contre la Constitution soviétique, d'ailleurs, par Khrouchtchev. Contre d'ailleurs la volonté du Parti communiste criméen. Et d'ailleurs, en 1994, il y a le Parlement criméen déclare l'indépendance, annonce un référendum, et qui finalement est bloqué parce que, bon, bah, à l'époque, c'était Yeltsin et Kozyrev, hein, le ministre des Affaires étrangères. Et donc, ils ne soutiennent pas ce mouvement-là. Mais en principe, la Crimée a toujours voulu être attachée à la Russie. Et effectivement, en revanche, en 1991, tout le monde, à commencer par les Russes, veulent mettre fin à l'URSS. Faut lire les mémoires de Primakov là-dessus, c'est assez limpide.
Bon, il y a eu quand même en mars 91, il y a eu quand même un référendum sur les accords, enfin les nouveaux ce qu'ils ont appelé en russe
L'état de l'Union, oui, un truc, je
Sjeveznyi
peux commencer. Ouais, la nouvelle, oui, bah, d'ailleurs, l'Ukraine restait. Le projet de Gorbatchev, donc, qui était une restructuration de
de
l'URSS,
l'entité politique
de
URSS.
l'entité politique, il y a que six entités qui ont refusé d'y participer. De mémoire, il y avait
Les pays
l'Arménie,
baltes,
les Pays-Baltes, et puis
la
encore
Géorgie,
la Géorgie, peut-être
et
l'Azerbaïdjan, mais j'en suis pas certain, je suis même pas certain.
je sais pas, ouais,
Il
les
y en avait
Géorgies, plus...
six. Il y en
ouais,
avait
parce
six de
que.
mémoire. Mais l'Ukraine et la Biélorussie ont voté pour rester dans l'Union.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, en revanche, après, effectivement, quand il y a eu le putsch et que bon, le système s'est avéré non réformable, et surtout l'action de Boris Yeltsin, là, les gens ont dit OK, on arrête et on passe à autre chose. Et tout le monde voulait en sortir, à commencer par les Russes. À commencer par les Russes.
Alors, malheureusement, l'heure tourne, je suis obligé d'accélérer parce qu'il y aurait plein, il y a plein de choses intéressantes. Je recommande votre livre, préfacé par le général de Lavarde en plus. J'appelle donc l'Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Alors, vous consacrez un chapitre à Prigojine et à Wagner. Qui incontestablement a joué un rôle important sur la chute de Bakhmout. On se souvient donc du fameux 23 juin 2023 où tout d'un coup Prigojine retourne en quelque sorte les armes contre son l'épée contre son roi et fait une espèce d'épopée à travers la Russie pour, semble-t-il, arriver jusqu'à Moscou. Alors, moi, il y a quand même des choses. Alors, il y a quand même une chose avec laquelle je suis qui m'a dérangé dans votre livre. Et vous savez, quand on est des amis, parce que je crois on va pas se le cacher, nous sommes des amis, vous et moi, et on a le droit d'avoir des désaccords, et quand on a des désaccords, on a le devoir de les dire. Et bon, j'ai trouvé la comparaison avec le putsch d'Alger assez choquante. Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens qui vous l'ont dit, ça?
Non, parce que Peut-être dans les commentaires, mais de proches, non. De proches, on m'a pas.
Voilà, donc c'est
Voilà.
voilà, donc c'est bah, à mon avis c'est pas pertinent, c'est-à-dire que bon, le pouce d'Alger, bah il y avait en Algérie, bon alors on va pas faire le débat sur l'Algérie maintenant,
Ouais,
c'est
non,
pas le
c'est pas la
sujet, hein.
question. Mais non, moi, en fait, j'ai comparé, je maintiens la comparaison sur le fait que les généraux ne voulaient pas faire un putsch. Ils voulaient attirer l'attention du pouvoir central sur la situation. Et d'ailleurs, finalement, ça s'est passé sans heurts. Ça a duré un peu plus longtemps que le putsch de Prigogine. Prigogine, lui, c'était pareil. Lui, Prigogine, je pense, c'est un Saint-Pétersbourgeois et c'est un homme des années 90. Donc, il a grandi à cette époque-là dans une Russie. Il a fait ses affaires dans une Russie où les oligarques décidaient des ministres. Par exemple, je citais Evgeny Primakov. Evgeny Primakov perd sa place de Premier ministre à la demande des oligarques, notamment Boris Berezovsky. Et je pense que c'est le poste. Je pense que Prigogine s'imaginait, a voulu faire exactement comme les putschistes d'Alger, c'est-à-dire il voulait pas s'emparer du pouvoir, bien sûr, mais il voulait obtenir de Poutine le changement du ministre des Affaires étrangères, qui voulait se débarrasser de Wagner, voilà, et du chef d'état-major. Donc c'est dans ce sens-là. Et donc je pense que la comparaison est valide. Je valide pas, je compare pas du tout l'origine du putsch, etc. Mais je compare l'action. Prigogine ne voulait pas faire un putsch. Prigogine voulait obtenir de Poutine qu'il remplaça Shoigu et Gerasimov. Et de la même manière, les généraux d'Alger, je ne sais même pas s'ils eux-mêmes savaient exactement ce qu'ils voulaient, ils ne voulaient pas prendre la place du général de Gaulle ou faire un putsch, en fait. Ils voulaient attirer son attention, essayer d'obtenir des concessions sur la politique qui était suivie en Algérie.
Bon,
C'est ça.
c'est-à-dire que ce
Ma
qui.
comparaison se limite à ça, en fait.
Voilà, c'est-à-dire que ce qu'ils voulaient, ils étaient en train de se rendre compte qu'en Algérie était en train de donc il y avait déjà l'abandon de souveraineté sur un territoire, c'était une première chose qui pouvait choquer. Et puis ils se rendaient compte qu'il y avait une véritable purification ethnique, c'est-à-dire que c'était la valise ou le cercueil, que les Algériens qui avaient été
Oui,
qui avaient été
mais
loyaux,
ça
etc. Voilà.
je le conteste pas, mais c'est pas du tout la nature de ma comparaison.
D'accord, mais
Ce que je veux dire, c'est que ni Prigogine ni les généraux d'Alger voulaient prendre le pouvoir. Ils voulaient envoyer un message qui n'était d'ailleurs qui est totalement différent dans la colonne, mais ils voulaient envoyer un message au pouvoir central. Et c'est pour ça que finalement ça s'est fini de la même manière. Il a suffi que le général de Gaulle dise je m'affirme en la comment s'appelle? Alors, la légitimité, et il a appelé les soldats à désobéir aux généraux putschistes, et puis ça s'est terminé là. Et simplement, ça a duré 3 jours et demi au lieu de durer 15 heures, puisque Poutine a fait quasiment le même discours, hein. Il s'est affirmé en la légitimité, il a appelé les soldats à désobéir aux putschistes, on va dire, j'aime pas le terme, mais, et ça s'est passé exactement pareil, parce que finalement, la nature de la protestation de Prigogine et celle des généraux d'Alger est la même. C'est pas une volonté de prise de pouvoir, contrairement à ce qui a été immédiatement analysé sur le plateau de télé. C'était une volonté d'obtenir quelque chose du pouvoir central, mais pas de le remplacer, évidemment.
Xavier Moreau, on pourrait encore parler des heures de votre livre. Moi, j'engage simplement les gens à le lire. Bien sûr, il y aura un lien dans l'article de ce podcast, de manière à ce que vous puissiez vous procurer à votre tour donc l'Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, qui fait suite au livre de l'Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. À mon avis, la Russie n'a pas gagné encore et la France se trompe, continue de se tromper. Elle s'est pas trompée, elle se trompe toujours. Mais bon, ça c'est un autre. D'ailleurs, un mot à sujet des dernières élucubrations macroniennes sur le fait d'envoyer des troupes et tout. Vous pensez quoi? Vous pensez que c'est réel? Vous pensez que
Non,
c'est
je
du
pense
bluff?
que. Alors, je ne dis pas qu'il ne le fera pas, mais il y a déjà des troupes françaises là-bas,
Oui, il y a
des
déjà des gens.
Français.
Oui, on est
Voilà,
d'accord.
il y a des gens à l'état-major, il y a des gens pour faire la formation, notamment sur les matériels techniques, les systèmes anti-aériens, l'artillerie, etc. Donc, il y en a déjà. C'est pas moi qui le dis, c'est Olaf Scholz, qui a des Anglais, des Français. Voilà. Donc ça, il y en a déjà. La question, c'est est-ce que il va le rendre officiel? C'est ça la question, en fait. Et je pense que. Tout dépend de la situation intérieure en France. Ces déclarations d'Emmanuel Macron, elles ont deux sources essentiellement. La première, c'était la crise qui a suivi le salon de l'agriculture. Donc là, il fallait parler d'autre chose. Je pense qu'aussi là, maintenant, il y a un grand scandale autour de la vie de couple d'Emmanuel Macron qui pourrait le pousser aussi à prendre des décisions radicales. Que ce soit vrai ou pas, ce n'est pas la question. Donc de donner le change, de parler d'autre chose, dirons-nous. Et il y a l'autre chose, c'est que l'Allemagne, Scholz, exige de la France qu'elle fasse plus. Et c'est vrai que la France a beaucoup moins donné que l'Allemagne. Et surtout, ce qu'elle a donné, c'est vraiment du matériel d'occasion. Les VAB, les AMX-10RC, très peu de munitions, mais ça, ce n'est pas de notre faute, c'est parce qu'on n'en a pas et
On
qu'on ne peut
n'en
pas
a
en produire
pas.
beaucoup. Donc voilà, Scholz, et surtout, on n'a pas, la France est un pays au bord de la banqueroute, donc on ne peut pas faire aussi bien que l'Allemagne. Et donc Scholz n'est pas content. Et donc dire, bah, nous, on va envoyer des troupes au sol, c'est un moyen pour Macron de faire croire qu'il fait quelque chose, alors qu'en fait, il va rien faire. Donc il y a
Oui, donc.
ces deux aspects-là. Est-ce que vraiment la France finira par envoyer, et d'ailleurs ce sera purement symbolique parce que c'est pas, si vous voulez, une brigade donc avec le soutien. Allez, si on arrive à envoyer 10 000 hommes, ce serait bien tout compris, hein, ce serait déjà extraordinaire. Ça ne changerait absolument rien sur le terrain, ça ferait juste 10 000 morts parce que malheureusement la puissance de feu russe est telle que voilà. Mais ça permettrait effectivement de à Emmanuel Macron de par exemple de ne plus parler des problèmes intérieurs et de jouer de nouveau le commandant en chef de l'armée comme il a fait en 2022 pendant la campagne présidentielle.
Cela étant dit, bon, il va falloir aussi. Moi, je pense qu'il y a aussi une volonté, c'est de justifier a posteriori les morts, parce qu'il y a il y a des Français, de toute évidence. Enfin, il y a des étrangers qui meurent en Ukraine, hein, du fait du
Oui,
conflit.
ouais.
Il y a des tués. Et à un moment donné, bon, c'est bien beau de dire qu'ils ont eu un accident de montagne. Simplement, voilà, ils sont pas vraiment en montagne, hein.
Oui, on est bien d'accord.
Voilà, il va falloir à un moment donné, peut-être c'est une manière de quelque part faire passer comment dire ça, sans être trop cynique, mais cynique quand même, faire passer du marché gris au marché blanc des
Je
gens.
préfère passer le mauvais si pour des lanternes, surtout.
Oui, alors ça, oui, mais ça, de toute façon, on est habitué avec Macron, voilà quoi, je veux
Ouais.
dire.
Oui, bon, cela dit, bon, encore une fois, la guerre par proxy, c'est quelque chose de tout à fait classique, hein, il n'y a absolument rien de nouveau. Donc les Russes savent
Enfin, ça
pertinemment.
reste illégal du point de vue du droit international,
Oui,
quand même.
mais cela dit, bon, il ne faut pas non plus. Pour les Russes l'acceptent, ça. Ils acceptent ils ont bien compris que c'était une guerre de l'OTAN contre la Russie par le proxy ukrainien. Donc ils l'admettent et tout le monde est bien conscient que ces généraux, ces spécialistes, ces soi-disant humanitaires qui passent, ce sont des agents français, en fait, en quelque sorte. Donc voilà, c'est. Mais la question, moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est que je vois des raisons intérieures dans les discours de Macron. Et donc, si la situation intérieure empire, et je vois pas de raison qu'elle n'empire pas, notamment les élections européennes qui arrivent, etc., ça pourrait pousser Madame Macron à se radicaliser, et pas seulement dans le discours.
Bon, après, il
D'autant
n'a pas
plus
les
que là,
moyens.
bon, enfin, vous le voyez vous-même, vous êtes en Russie, tout le monde prend Madame Macron pour un guignol, non seulement en Russie, mais dans le monde entier. Il
Ouais,
est
mais
le plus grand
ça fait
pays.
mal parce que. Enfin, pas qu'on prenne Emmanuel Macron pour un guignol. Enfin, bon, quand vous êtes français patriote, vous êtes en Russie, c'est.
Bah évidemment, c'est très
Voilà,
humiliant.
c'est extrêmement humiliant, quoi, je veux
On est
dire.
humilié, on est humilié.
C'est
Et
ça, c'est ça.
c'était pas forcément le but que visait Macron. Emmanuel Macron, en fait, rêvait de devenir l'interlocuteur en Europe de Vladimir Poutine, ce qui est totalement délirant, étant donné les antécédents, notamment la publication d'une conversation secrète avec Vladimir Poutine en juin
Ouais, alors ça
2022.
c'est
C'est
c'est en
complètement
dessous de
délirant.
tout,
Donc, en
c'est ça.
fait, mais il y a une telle dissonance cognitive de la part des élites, enfin, de la classe gouvernante française, qui a pu croire qu'en faisant ce genre de déclaration, ça lui permettrait d'avoir accès directement à Vladimir Poutine, c'est pas exclu. Mais voilà, jusqu'où est-il prêt à aller pour occuper l'espace médiatique
Bon.
et pour parler d'autre chose que la catastrophe française?
C'est ça. Non, bon, alors moi je pense que l'accès à Vladimir Poutine, il est là, hein, c'est-à-dire que tout chef d'État peut théoriquement parler, enfin un chef d'État peut parler à un autre chef d'État, et d'ailleurs Poutine le lui a dit, hein, il lui a dit Poutine l'a dit à plusieurs reprises, à chaque intervention quasiment Poutine parle de Macron. Chaque fois qu'il est interviewé, il parle de Macron. Et il dit, non, mais il n'y a pas de problème, s'il a quelque chose d'intelligent à proposer, voilà, moi, je
Oui,
peux...
mais c'est pas ça que veut Macron. Là, ce que veut Poutine, c'est de la diplomatie. C'est-à-dire, maintenant, le lien direct qu'il avait par téléphone avec Vladimir Poutine est mort et ne reviendra pas. Donc maintenant, si jamais Macron veut faire quelque chose à la Russie, faut d'abord qu'il va demander à son ministère des Affaires étrangères de contacter le ministère des Affaires étrangères russe. Ils vont préparer une rencontre, soit physique, soit téléphonique, avec un communiqué final qui sera déjà écrit avant que la réunion téléphonique ait lieu. On va le faire à l'ancienne, parce que la relation de confiance qui existait, notamment, n'existe plus à cause de la publication de l'appel téléphonique. Mais Macron, c'est pas ce qu'il veut. Macron, il veut pas faire de la diplomatie. Il veut faire du show. Il veut faire son show. Et ça, Vladimir Poutine ne l'acceptera plus. C'est terminé. Et c'est-à-dire quand il dit, bah oui, si Macron a quelque chose à proposer, bah, qu'il envoie ce qu'il a proposé. On va regarder si ça vaut la peine. C'était déjà la position qui était celle au début de l'opération militaire spéciale, avant même que la conversation avec Poutine soit publiée. C'est-à-dire, bah, maintenant, on va faire de la diplomatie. Ça sert à rien de se rencontrer pour se rencontrer. Et on va faire comme avant.
Alors, Zemmour, j'en arrive à la dernière partie de notre entretien. Vendredi soir, il y a donc a été perpétré sur le sol russe à Moscou cette fois, puisque jusque-là c'était des régions frontalières de l'Ukraine qui étaient touchées. C'était là aussi les populations civiles qui étaient visées. Mais là, c'est à Moscou, donc dans un centre commercial à quelques dizaines de kilomètres du centre de la capitale, parce que le centre, évidemment, était totalement inaccessible et très protégé. Donc a eu lieu un attentat qui a fait plusieurs dizaines de morts. Hein. Je crois que ce soir, j'ai regardé, on était à 137 morts. Il y a des blessés qui vont probablement... voilà. Donc... Alors, les télévisions françaises, de manière assez ordurière d'ailleurs, il faut le dire, une certaine presse française, une certaine presse de voyous a immédiatement, parce qu'ils savent tout tout de suite, hein, a immédiatement accusé Vladimir Poutine en disant, voilà, c'est Vladimir Poutine qui a besoin de ça pour justifier une offensive plus importante sur l'Ukraine, ou des frappes, ou des choses comme ça, en tout cas des actions ou une intensification de l'opération militaire spéciale. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis et m'entretenir avec vous sur le sujet. D'abord, comment on a réagi? Alors, vous avez été très sollicité, évidemment, au cours de ce week-end, ce qui me fait réitérer mes remerciements d'avoir pris le temps de venir ici sur donc ce podcast, le balado de la réplique. Merci beaucoup, en tout cas, encore une fois. Mais ce que je voudrais dire, voilà. Quelle est votre analyse de la situation? Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant que l'émotion n'est pas retombée, bien sûr, mais on n'est plus dans la réaction complètement à chaud.
Bon,
Voilà.
déjà, en fait, du point de vue de la manière dont les médias français communiquent, ben, en fait, je revis ce que j'ai revécu en 2002 avec Nordosk et en 2004 avec Beslan. Donc, c'est notamment, bon, là, on a vu, c'était le député macroniste européen Bernard Guetta qui avait du mal à retenir sa joie, en fait. Et je me souviens, ça m'avait frappé il y a 20 ans. C'était pareil, des gens comme Hélène Blanc, Ghalia Ackermann avaient du mal à retenir la joie qu'ils avaient de voir un attentat perpétré contre la Russie et des Russes tués, ce qui était assez obscène. Donc ça, là-dessus, ça ne m'étonne pas. Ce qui va démentir l'idée que comme ça va permettre à Poutine d'aller plus loin, de faire plus fort, c'est exactement ce qu'avait raconté le général Yakovlev lorsqu'il y a eu deux drones qui sont tombés sur les toits du Kremlin, en disant c'est les Russes qui ont fait eux-mêmes, parce que comme ça va permettre à Poutine de raser Kiev, en gros. Bon, Poutine n'a pas rasé Kiev.
Complotiste, c'est important. Enfin, je veux
C'est
dire.
complet. Mais là, on a le droit. Là, on a le droit.
Ah,
Et
pardon, d'accord, ok.
surtout, vous regardez vous écoutez la déclaration de Vladimir Poutine qu'il a faite hier, après l'attentat, une fois qu'on a commencé à avoir les premiers éléments. Il a dit, on sait bien ce qu'ils veulent, mais nous, on a nos plans et on va continuer nos plans. Et le plan de Poutine, c'est pas de raser Kiev pour se venger. C'est évidemment l'un des buts de cet attentat, c'est ça, c'est de provoquer une réaction russe disproportionnée pour empêcher tôt ou tard cette réconciliation qui aura lieu entre la plus grande partie des Ukrainiens
Oui,
et la
mais
Russie.
la population qui a voté, qui a réélu Vladimir Poutine à 87%, c'est pas rien. Elle a peut-être aussi son mot à dire et peut-être aussi ses exigences. Et il y a beaucoup de si Poutine a une grande patience, notamment dans son analyse de justement de ne pas considérer, de ne pas se considérer en conflit ouvert avec les pays occidentaux et les pays occidentaux, européens et américains. La population, vous serez d'accord avec moi, une frange de la population commence à trouver Poutine très patient, voire trop patient. Donc il
Oui,
pourrait y
mais
avoir quand même une pression.
c'est depuis le début. C'est depuis le début. Et évidemment, je pense que
Mais ça va pas
si
s'arranger
Poutine,
là.
Vladimir, si Poutine faisait, par exemple, Alvov, même pas à Kiev, mais Alvov, donc qui est le cœur du bandérisme dont on parlait tout à l'heure, s'il transformait Alvov en Gaza, je pense une partie de la population russe serait, ça choque. Je pense que ça choquerait personne en Russie.
Je crois qu'ils ont
Lvov, on
frappé,
comprend bien.
des objets à Lvov, je crois, hein, aujourd'hui.
Oui, mais ils ont frappé, a priori, les installations pour accueillir les F-16, des infrastructures énergétiques ou logistiques. Ça, c'est une chose. Mais un acte de vengeance pur et simple sur le modèle de ce qu'ont fait de ce
Non,
qu'ont
mais
fait
ça
sur
ne se fera pas
Israël
jamais.
à Gaza, ça n'arrivera jamais. Et c'est
Jamais.
ça qu'a bien
Non.
voulu dire Poutine. Et donc, en fait, le dire les Russes on va faire ça parce que ça va justifier quoi? La Russie est en train de gagner la guerre, c'est évident, sur le terrain. Là, elle a fait, c'était les jours avant l'acte terroriste, elle a envoyé une salve de missiles qui a détruit une bonne partie des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Elle va faire ni plus ni moins. Elle va continuer ça. Et cette tentative effectivement, de radicaliser l'affrontement entre la Russie et l'Ukraine, dans la perspective de la défaite ukrainienne, hein, si vous voulez, c'est pas un hasard si les attentats de 2002 et 2004 ont été faits au fur et à mesure de la défaite des islamistes tchétchènes, qui d'ailleurs il n'y avait pas que des tchétchènes. C'était parce que ils avaient perdu la guerre. Donc en vengeance, l'émir du Caucase Oumarov de mémoire, ils sont passés à des actions terrorisme, des terroristes sur le territoire russe. Mais je pense que ça n'influera absolument pas sur les décisions stratégiques et tactiques de l'armée russe.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les auteurs de l'attentat, donc les exécutants, sont exclusivement des étrangers. Ont-ils tous été arrêtés? On nous dit que oui. Voilà. Donc, qui bono, qu'est-ce
Voilà.
qui, voilà, qu'est-ce que, qu'est, quelle est votre analyse?
À qui profite le crime? Je pense que c'est une opération de diversion. Moi, je vais vous dire honnêtement, moi, je ne vais pas prendre autant de gants qu'en prend la diplomatie russe. Je pense que c'est Kiev et je pense que c'est validé par la CIA et le MI6. Voilà, je vous dis honnêtement, c'est pas un attentat islamiste tel qu'on peut en avoir parce que déjà, les terroristes ont cherché à s'enfuir. Ils n'étaient pas
Oui, ils
chargés
étaient pas en
d'explosifs.
opération suicide, c'est ça,
Voilà, donc
absolument.
c'était pas du tout ça. Ils ont cherché à s'enfuir. Ils ont cherché à s'enfuir en allant en Ukraine. C'est quand même des choses qu'on peut garder à l'esprit. Et à l'heure qu'il est, que l'État islamique attaque la Russie, ça n'a aucun sens. Effectivement, il y a toujours des troupes russes en Syrie. Mais c'est pas elles qui sont la préoccupation de l'État islamique. C'est plutôt, en ce moment, les islamistes sont plutôt mis en danger notamment par l'action de la Turquie à la frontière nord de la Syrie. C'est plutôt ça,
Mais
la mise en
attendez,
danger, on peut dire.
on va pas se cacher derrière son petit doigt. C'est-à-dire que de toute façon, si c'est Kiev et commandité par Kiev, c'est Washington. Mais
Oui.
si c'est l'État islamique, c'est aussi Washington.
Voilà. Donc
Donc dans tous les cas, se dire que
c'est
ça
pas
ne.
nous, c'est pas nous qui le disons, c'était Hamid Karzai quand même, hein, l'ancien président afghan mis en
Puis pas
place par les
que
Américains,
Donald
qui avait
Trump, ancien
dit,
président
voilà, qui avait
américain,
dit
quand même.
que l'État islamique était une création américaine.
Bah, bien sûr.
Donc, voilà, je pense qu'une fois de plus, on est de l'affrontement par proxy. En plus, comme je l'ai dit hier sur RT, l'Ukraine de Kiev est devenue une espèce d'île du diable du terrorisme. Il y a des bandes islamistes qui ont trouvé refuge.
Si.
C'était pas moi qui le disais, c'était dans Le Point, c'était dans Le Télégraphe, je crois aussi. Ça, c'était en 2019. Ensuite, le ministre de la Défense ukrainien, Roustem Oumarov, a grandi dans les écoles de Fethullah Gulen, donc l'islamiste qui a essayé de putcher Erdogan en
Erdogan,
2015.
oui. Mmh.
Voilà. Ensuite, il a continué ses études aux États-Unis. Il a été de ceux qui ont organisé la destruction donc des infrastructures électriques qui alimentaient la Crimée, le blocage notamment de l'accès à l'eau douce, le blocus sur les denrées alimentaires. Et donc, il est considéré comme un terroriste. Donc, le terrorisme, et en plus, dans l'Ukraine de Bandera, si vous voulez, c'est quelque chose de culturel. Les héros de l'Ukraine actuelle, il n'y a pas un général, il n'y a pas un soldat, quoi. Alors, Choukevitch a servi sous uniforme allemand, mais c'était pour faire des opérations de répression contre les Juifs, les Polonais, les Russes, et même d'ailleurs, je crois qu'ils ont été déployés en Slovaquie, en Slovénie. Donc, ils étaient soit des terroristes contre l'État qui les dominait, c'est-à-dire contre la Pologne, soit des actions terroristes au service de l'Allemagne nazie pour réprimer les populations civiles. Qu'elle se trouve. Donc, encore une fois, on est en plein dans je dirais, la substance même de l'État ukrainien. Le terrorisme est quelque chose qui est parfaitement intégré dans la manière de faire. Et on sait historiquement que ça n'a jamais fait peur, ni au MI6, ni à la CIA. Vladimir Poutine, d'ailleurs, l'a rappelé il n'y a pas longtemps dans une de ses interviews où il disait, moi, c'est un homme des années 90. Il disait maintenant qu'il n'y a plus d'affrontement idéologique, puisque l'URSS est morte, on va arrêter de se faire la guerre par proxy. Et pourtant, non, il observait dans le Caucase que Washington continuait, et le MI6 continuait à alimenter les terroristes caucasiens. On a vu
Bah non seulement ils...
Loulou-Tcheka, puisque là, aujourd'hui, on célèbre le triste anniversaire du début des bombardements sur la Serbie.
Belgrade.
Loulou-Tcheka était considéré officiellement par Interpol comme un mouvement terroriste, quelques mois avant que démarre l'opération. Et donc voilà, le terrorisme islamiste, mafieux, néo-nazi, bandériste, etc., c'est quelque chose, c'est malheureusement un instrument qui a été utilisé depuis toujours. Ça a été utilisé d'ailleurs une époque par l'URSS, on ne peut pas le cacher. Mais là, aujourd'hui, c'est Washington et Londres qui ne s'en privent pas. C'est comme ça.
Qu'est-ce que c'est l'atmosphère à Moscou aujourd'hui, donc 2 jours après l'attentat et...
Assez triste, hein, les gens. Alors, en même temps, c'est beaucoup de recueillement, notamment, vous avez vu autour du City Mall, du Crocus City Mall, des gens qui sont venus déposer des fleurs, beaucoup. Les Russes se sont précipités pour donner leur sang. Beaucoup de solidarité, évidemment que ça ne brisera pas la.
Millilitres de sang, je crois.
Ouais. C'est-à-dire, même à un moment, le ministère de la Santé a dit, c'est bon, vous pouvez arrêter là, ça va
Arrêtez,
aller.
eux. Ben,
Donc.
je vais vous dire la vérité. Moi, je me suis adressé à un centre de don de sang et on m'a demandé de revenir plus tard. En fait, on m'a dit, écoutez, là, on est congestionné, mais revenez dans 8 ou 15 jours parce que du sang, on en a besoin tout le temps. Mais là, c'est bon, pour l'instant, on n'en a plus besoin. Voilà.
Donc voilà, de la tristesse, mais bon, à côté de ça, et en plus, à côté de ça, il faut voir enfin, les Russes ne se trompent pas, ils savent très bien d'où ça vient. Et puis, il faut voir aussi que l'armée russe avance sur le front. Donc ça, par exemple, hier, on n'en a pas parlé, mais les Russes ont pris Ivanovskoïe, juste à l'est de Tchassofyar. C'est-à-dire que Tchassofyar, c'est la clé ultime avant Kramatorsk, Slaviansk, Konstantinovka. C'est la première ligne de défense, c'est l'ultime ligne de défense. Donc après Bakhmout. Donc si vous voulez, de l'autre côté, les Russes voient bien que. Je pense aussi, analysent ça comme le fait que on est en train de gagner la guerre, donc ils savent plus quoi faire, donc ils font des actes terroristes. Et ça, malheureusement, c'est parfaitement prévisible. Plus l'Ukraine va perdre la guerre, plus les actes terroristes vont se multiplier. Donc là, c'est au FSB de démanteler les réseaux.
De toute évidence, le FSB a échoué vendredi soir.
Oui, tout à fait. C'est un échec. Hein. Alors, ils ont été très bons après pour retrouver les coupables. Ça, chapeau. Et surtout, ce qui prouve bien d'ailleurs que ce n'est pas les Russes qui l'ont fait eux-mêmes, c'est que les coupables ont été retrouvés vivants. Donc, ce n'est pas l'assassinat de John Kennedy, c'est ce que je veux dire. Donc, les coupables ont été retrouvés. Donc, on va savoir. Mais c'est vrai que normalement, c'est le travail du contre-espionnage et de l'antiterrorisme de prévenir ce genre d'opération. Mais c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué à prévenir.
J'ai entendu deux ou trois polémiques autour de l'organisation des secours qui seraient arrivés qui seraient arrivés tard sur place, etc. Vous avez entendu ces choses-là, vous, ou pas du tout?
Non, pas du tout. Pas du
D'accord.
tout. Non, en plus, enfin, les secours étaient immédiatement sur place. C'était même plutôt bien organisé. Moi, je vois très bien où c'est. Je travaillais à côté
Oui, moi aussi.
il y a une vingtaine d'années. Donc, quand ils l'ont construit, d'ailleurs, quand ils l'ont construit, j'étais là quand ils l'ont construit. Donc, c'était non, non, c'est facile d'accès en fait. C'est vraiment, il y a eu tout ce qu'il y a. Mais après, c'était quand même bien préparé, si vous voulez. C'était bien préparé. Notamment la manière dont ils ont mis le feu, visiblement, qui a provoqué l'effondrement du toit, beaucoup sont morts également d'asphyxie, hein.
Oui, je sais,
Donc
oui, il y a beaucoup de gens qui ont
ça a
essayé de se
été,
réfugier dans les toilettes, dans les sous-sols, etc., qui sont morts d'asphyxie,
hein.
ouais, bien sûr.
Ça a été
Ouais.
très bien planifié. Et encore une fois, c'est pas des islamistes, c'est pas une attaque suicide. Ils voulaient s'en sortir et ils ont été payés pour. Ils ont été payés pour, comme ils l'ont reconnu.
Ouais, enfin, alors, je sais, j'imagine que vous avez vu comme moi l'extrait de l'interrogatoire d'un pauvre type qui,
Ouais,
pour 500 000 roubles, enfin,
c'est incroyable. 5 000
c'est.
euros, ouais.
Oui, non,
C'est fou.
c'est ridicule.
Ouais.
Bon, moi, très franchement, je trouve que ça cadre pas justement avec la préparation, parce que c'était extrêmement bien préparé, en tout cas. La seule chose qu'ils n'ont pas réussi, c'est à fuir. Et.
Voilà, mais après, ceux qui ont agi sont pas forcément ceux qui ont préparé. C'est ça,
Ah oui,
le.
non, non, mais l'exécution sur place, est faite par des gens très entraînés. Hein. Je crois que c'est quand même, voilà quoi. Mais
Enfin, il n'y a pas besoin d'être très entraîné pour arriver avec des armes, avec une Kalachnikov et tirer dans le tas, hein, pour le
ah
coup.
oui, mais pour déjouer la guerre, enfin le. Voilà, aujourd'hui à Moscou, vous rentrez pas dans le métro sans passer par un portique, vous entrez pas dans un hôtel sans passer par un portique.
Non, bah
Enfin
c'est ce
bon,
que je
c'est.
dis. La préparation a été extrêmement bien faite, mais en soi, après, une fois qu'ils ont les armes, et des armes, il y en a. C'est qu'on est un pays en guerre, donc les frontières sont poreuses. Une fois que vous avez un arme et chargeur de Kalachnikov, et que la mission, c'est pas de donner l'assaut d'une tranchée, mais c'est de tirer sur des civils désarmés,
Et puis.
non, c'est pas très compliqué. Et je pense d'ailleurs, on découvrira peut-être que ils ont fait leur classe en Ukraine, hein.
Et
Il y a des
puis,
groupes islamistes en Ukraine.
bien sûr, et puis, n'oublions pas que le fait que toutes les armes qui sont envoyées aux frais du contribuable ouest européen, ou états-unien, enfin un peu moins maintenant, mais toutes ces armes ne finissent pas nécessairement sur le front en Ukraine. Ça aussi, il faut pas l'oublier.
Ah bah ça, ils seront pas perdus pour tout le monde, ça c'est sûr.
Xavier Moreau, on arrive au bout de cet entretien. J'ai envie de vous laisser avec une histoire. Alors, je veux pas trop donner dans le pathos, mais je me suis dit que cette histoire vous ferait plaisir. Vous savez, j'ai offert votre livre que je vous ai demandé, que vous avez accepté gentiment de dédicacer à une personne que je connais qui est retraitée à Genève, qui s'appelle Anna Maria. Et Anna Maria est allée hier au consulat russe à Genève avec un bouquet de fleurs. Et puis elle avait donc elle a eu l'idée d'amener avec elle un seau plein d'eau pour. Elle a commencé à recueillir toutes les fleurs qui étaient sur le trottoir que les gens avaient laissées pour les mettre dans l'eau pour qu'elles se conservent. Alors quand la garde au consulat, quand la sécurité du consulat a vu cette bonne femme avec son seau d'eau et tout, ils ont commencé à paniquer un peu, puis ils se sont approchés. Et quand ils se sont rendus compte de ce qu'elle faisait, bah, tous les gardes se sont mis autour d'elle pour l'aider à faire un bouquet. Et voilà, alors c'est une histoire un peu. Voilà, elle est ce qu'elle est. Mais et la seule chose qu'elle leur a dit en russe, parce que Anne-Maria, depuis une année ou deux, apprend le russe, parce que voilà, elle découvre la Russie, et elle a dit simplement «Мы любим Россию». Et voilà, tous les gardes étaient extrêmement émus autour d'elle. Et voilà, je voulais vous partager non seulement cette histoire, puisque vous lui avez dédicacé votre bouquin, mais en plus, bah, moi, j'aimerais ce soir qu'on lui dédie cette émission. Voilà.
C'est charmant. C'est charmant. Ça ne m'étonne pas.
Merci beaucoup, Xavier.
Merci à vous.
Et puis, écoutez, je vous retrouve. Alors bon, voilà, j'espère que j'aurai. plus l'occasion de vous retrouver pour des moments aussi pénibles. Mais en tout cas, merci à vous du temps que vous avez pris. Et puis, merci à la famille Moreau de m'avoir permis de vous enlever un peu plus d'une heure.
Il n'y a pas de problème. À
Merci,
bientôt.
à
À bientôt.
bientôt.
Au revoir. Au revoir.
Au revoir.